Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour. Je voudrais lire avec vous aujourd'hui dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 34 et au verset 1er. Nous lirons les 10 premiers versets de ce chapitre. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs, ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend soin, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteur, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Je relis le verset 10. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Ce chapitre 34 du prophète Ézéchiel est un chapitre terrible dans lequel Dieu parle contre les chefs d'Israël qui ont amené la ruine du peuple. Dieu dit « j'en veux au pasteur ». Un terme général, quand on se souvient qu'Israël était une théocratie, un terme général qui englobe tous les responsables du peuple, les chefs politiques et religieux, rois, sacrificateurs, prophètes. La parole de Dieu reste vivante et actuelle. Et le mal que le prophète Ézéchiel soulignait au sein d'Israël, de la part de l'Éternel, le même mal, je le crois, malheureusement, se rencontre dans bon nombre d'églises aujourd'hui. Ce texte est d'une brûlante actualité pour le peuple de Dieu. Béni soit Dieu pour les hommes de Dieu qui restent fidèles. Il y a des hommes remarquables. Béni soit Dieu pour les chrétiens fidèles au Seigneur, il y a de très belles âmes dans nos églises et béni soit Dieu pour cela, mais il y a un mal grave que nous ne devons pas ignorer, que la parole de Dieu souligne et auquel nous avons à faire face aujourd'hui. Quels étaient les péchés et les déviations des pasteurs d'Israël? Quels sont les péchés et les déviations de certains responsables d'Église aujourd'hui? Le Seigneur dit au verset 2 de ce chapitre, « fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes, les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau ? Autrement dit, au lieu de paître le troupeau de Dieu, ces hommes-là se paissaient eux-mêmes. Il n'y avait pas en eux le véritable caractère du pasteur, du berger. Ils n'avaient pas la nature de Dieu, les pensées de Dieu, les sentiments de Dieu, comme l'exprime le psalmiste au psaume 23 qui est connu de tous, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Voilà le caractère du vrai pasteur. Et ce caractère-là, Dieu ne le retrouvait pas chez les pasteurs d'Israël. Lorsque l'apôtre Paul a rassemblé les anciens de l'église d'Éphèse, il leur a adressé ces paroles « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou encore surveillant ancien pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » L'apôtre Pierre a eu lui aussi les mêmes termes lorsqu'il s'adresse aux anciens. Dans sa première lettre au chapitre 5, il écrit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, étant comme les modèles du troupeau. » Nous devons constater qu'aujourd'hui, dans les églises, bien des chrétiens sont affamés spirituellement, assoiffés d'une vie spirituelle authentique, ils sont fatigués, ils sont affaiblis, ils se sentent comme perdus. Ils sont là dans des troupeaux gérés par des mauvais pasteurs qui, malheureusement pour reprendre l'esprit de la prophétie d'Ézéchiel, ont profité du troupeau, l'ont exploité, dépouillé, tondu. Dieu disait par la bouche du prophète, « Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtu avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. » Il y a eu un profit des biens matériels. On s'est enrichi dans toutes sortes de domaines au détriment du troupeau et le Seigneur le déplorait au plus haut point. En ce qui concerne la défaillance dans la responsabilité de ces pasteurs d'Israël et aujourd'hui dans le domaine du ministère pastoral, Dieu disait au verset 4 « Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. » Il y a là plusieurs points de faillite grave de la part des mauvais pasteurs. Le prophète Jérémie résumait tout cela en disant simplement au chapitre 2, verset 8 de son livre, il disait cela de la part de l'Éternel, « Les pasteurs m'ont été infidèles. » Alors Dieu dit, par la bouche d'Ézéchiel, « Premièrement, vous n'avez pas fortifié les faibles. Les âmes qui constituent les églises aujourd'hui ont besoin de force. Elles ont besoin d'être stimulées, encouragées, nourries par une vraie parole de Dieu, par ce qui est appelé le pain des grands, le pain des forts. Elles ont besoin de se développer, de croître, de se perfectionner. Et malheureusement, les mauvais pasteurs d'Israël n'avaient pas fortifié les brebis faibles. Aujourd'hui, des gens sortent des églises en disant « Mais ce n'est pas un pasteur qu'on a, c'est un philosophe. » On entend du haut de la chair des messages sociologiques, des messages remplis de psychologie, parfois de psychanalyse pseudo-chrétienne. On entend des messages philosophiques, mais il n'y a pas ou il n'y a plus à certains endroits le vrai message de la vie, le vrai message de Dieu, le vrai message de l'Esprit, et les brebis sortent des réunions avec le ventre aussi vide que lorsqu'elles y sont entrées. Dieu dit, vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades. Et c'est vrai que des chrétiens sont parfois mal en point, ils le sont moralement, ils le sont parfois psychiquement, tellement les pressions dans le monde du travail, dans la société, dans leur environnement familial parfois est difficile. Ils le sont sur le plan physique et ces chrétiens-là auraient bien besoin de guérison. De guérison par le message vrai de la parole de Dieu. N'est-il pas écrit « Il envoya sa parole et il les guérit » mais aussi sur le plan physique, parce que le Seigneur a ordonné dans l'Évangile « En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Dans les cas graves, le Seigneur a recommandé l'onction d'huile et il a dit que les anciens prient pour le malade en l'oignant d'huile. Au nom du Seigneur, il a fait une promesse, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Mais aujourd'hui, force nous est de constater que cet aspect de la guérison divine, de l'imposition des mains aux malades dans le contexte de l'évangélisation, disparaît de plus en plus et Dieu peut faire le même constat aujourd'hui. Vous n'avez pas guéri celle qui était malade. Dieu poursuit, vous n'avez pas pensé celle qui était blessée. La traduction Tob dit, vous n'avez pas fait de bandage à celle qui avait une patte cassée. Il y a une exhortation ici à panser les plaies, à consolider les fractures, et il est vrai que dans leur cheminement avec le Seigneur, des chrétiens parfois ont connu des moments difficiles, ils ont été blessés, ils souffrent de certaines plaies, ils endurent les souffrances de certaines fractures, et ces chrétiens-là ont besoin de soins, d'une exhortation, de visites au cours desquelles le pasteur serait là pour panser les plaies et consolider les fractures. Mais des chrétiens se plaignent de n'être jamais visités dans leurs épreuves. Ils peuvent passer par des temps difficiles. Ils se trouvent dans l'isolement, ils se trouvent dans leurs larmes, ils se trouvent dans des combats personnel, et le pasteur dit tout simplement, excusez-moi, mais je n'ai pas le temps. Mais comment des pasteurs peuvent-ils dire qu'ils n'ont pas de temps pour visiter les brebis qui sont sous leur responsabilité? Vous n'avez pas pensé celle qui était blessée. Le Seigneur dit encore, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Et il y a des brebis, inutile de prolonger le commentaire longuement là-dessus, mais il y a des brebis qui s'égarent. Et la responsabilité du pasteur, c'est de chercher à ramener la brebis dans la bonne voie. Les mauvais pasteurs d'Israël ne faisaient pas ce travail-là. Dieu dit encore, « Vous n'avez pas cherché celle qui était perdue. » Quel drame! Et aujourd'hui, dans certaines églises, on ne prêche plus la vraie voie permettant à l'âme perdue de trouver le salut. On a une évangélisation qui est teintée d'une réelle apostasie. On ne prêche plus la vraie voie du salut. Le message de la croix a disparu de nombreux messages d'évangélisation. On ne prêche plus la réalité du péché, l'horreur du péché aux yeux de Dieu. On ne prêche plus la repentance. On ne prêche plus la conversion. La personne de Christ n'est plus le centre du message d'évangélisation. On n'insiste pas sur la nécessité de confesser les péchés, de les abandonner et d'avoir foi dans le sang purificateur de Jésus. C'est une espèce d'évangélisation dépouillée de toute sa sève, de toute sa force, de toute sa vitalité. Je me souviens, jeune pasteur, nous avions une rencontre avec des pasteurs d'autres obédiences, et il y avait entre autres des pasteurs protestants, et je me souviens de la réflexion de l'un d'eux qui disait, mais prêcher la croix aujourd'hui à l'homme qui vit dans son HLM et qui mange du poulet aux hormones, c'est un évangile de boucherie. Et moi qui entendais cela avec mes oreilles de tout jeune serviteur de Dieu, j'étais bouleversé. Comment pouvait-on parler du message de la croix comme d'un évangile de boucherie? Mais la croix reste le message qui sauve, et qui sauve sur tous les continents, sur tous les cieux, les hommes de toute race. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication et la prédication de la croix. Dieu dit, vous n'avez pas cherché celle qui était perdue. En résumé, quand on examine bien ce que Dieu dit ici, nous avons la réalité d'un troupeau. Il y a les brebis faibles, il y a les brebis malades, il y a les brebis blessées, il y a les brebis égarées, sans parler de celles qui sont perdues au dehors. Ça, c'est la réalité d'un troupeau. Et le pasteur est là pour ce type de troupeau-là. Il n'est pas appelé à aimer le troupeau idéal, celui qu'il voudrait qu'il soit. Il n'est pas appelé à se plaire seulement dans ce qui serait le troupeau idéal, le troupeau qui ne lui donnerait aucun souci, le troupeau qui ne lui causerait aucun problème, qui lui permettrait d'avoir beaucoup de temps pour des loisirs ou des heures devant l'ordinateur, mais il est là pour apporter ses soins à tous les problèmes rencontrés par les brebis. Alors je vous l'accorde, une telle vocation demande du temps, demande du cœur, demande de l'intérêt, un investissement de force. Une telle vocation provoque des soucis, nécessite de l'attention, du discernement, réclame aussi que nous ayons les remèdes à dispenser aux troupeaux, mais nous sommes là pour cela. Les pasteurs sont là pour cela. À l'époque du prophète Ézéchiel, Dieu constatait le contraire de ce que doit être un vrai berger. À la fin du verset 4, Dieu dit avec beaucoup de tristesse, « Mais vous les avez dominés avec violence et avec dureté. » Dieu constatait de la domination, de la violence, de la force, de la rudesse et de la dureté à l'égard des brebis. Là où il aurait fallu être les modèles, là où il aurait fallu de la douceur, les mauvais pasteurs usaient de dureté. L'apôtre Paul rappelle à Timothée ces choses dans la première lettre au chapitre 4 et au verset 12. Il disait à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Et dans sa seconde lettre, au chapitre 2, verset 24, « Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. » Dieu en vient alors à l'état de souffrance de son troupeau. Et un état de souffrance sur quatre points. J'aimerais les souligner rapidement et essayer d'encourager mes frères et mes sœurs dans la foi. Le premier point constituant l'état de souffrance du troupeau de Dieu, c'était la dispersion. Et Dieu y revient trois fois en l'espace de deux versets. Dieu dit au verset 5, « Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. » À la fin du verset 5, « Elles se sont dispersées. » Et encore dans le verset suivant, le verset 6, « Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. » Le mal existe aujourd'hui au milieu du peuple de Dieu. Des chrétiens quittent les églises parce qu'ils n'y trouvent plus leur compte. Et certains préfèrent rester chez eux. Ils ne savent pas où aller. Ils n'ont plus de vrais pasteurs. Des gens m'écrivent, des gens me téléphonent de l'Est, de l'Ouest, du Sud et même de l'étranger. Et tous me font part de leur souffrance. Ils me disent, mais mes frères, mais pourquoi aller? On n'est plus nourri, on ne reçoit plus la nourriture attendue. Et les gens se dispersent. Le prophète Jérémie disait au chapitre 10, verset 21, les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel, c'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tout leur troupeau se disperse. Et encore au chapitre 23, les versets 1 et 2, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Le second point qui constitue l'état de souffrance du troupeau de Dieu, c'est que les brebis ont été les victimes des bêtes des champs. Dans la seconde partie du verset 5, de notre chapitre 34 d'Ézéchiel, Dieu dit « Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs ». Et à la fin du verset 8, Dieu revient sur cette pensée « Elles sont devenues, dit-il à nouveau, la proie de toutes les bêtes des champs ». Dans l'évangile de Jean, alors que le Seigneur parle du bon berger, il dit dans Jean 10, verset 12, « Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. » Le troupeau est donc en danger. Il doit savoir qu'il y a des adversaires cruels. Et le Seigneur Jésus en parle comme du loup. Dieu disait par la bouche du prophète Ézéchiel que c'était les bêtes des champs. Derrière cette image-là, il y a bien évidemment le diable et tous ses desseins malveillants. On peut dire qu'il est le loup par excellence qui cherche à faire le plus de dégâts possible dans l'Église de Jésus-Christ. Mais, au niveau des bêtes des champs, il n'y a pas que le loup. Il y a aussi les faux prophètes que le Seigneur Jésus a désignés d'une façon très particulière dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et au verset 15. Il dit « Gardez-vous des faux prophètes » donc il n'y a pas que le diable « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » On retrouve ici l'image du loup ravisseur qui met en danger le troupeau de Dieu, mais cette fois, ce n'est plus le diable en personne, mais ce sont ses agents, ce que le Seigneur Jésus désigne comme étant les faux prophètes. Et je me suis posé la question pendant longtemps, mais pourquoi les faux prophètes viennent-ils en vêtements de brebis et non pas en vêtements de berger? Puisqu'au fond, ce sont des responsables. Pourquoi ne viennent-ils pas, puisque ce sont des faux prophètes, ne viennent-ils pas en vêtements de berger? Pourquoi se déguisent-ils en vêtements de brebis? Et le Seigneur m'a fait comprendre que s'ils agissent de cette façon-là, c'est parce qu'ils font du dégât au niveau de l'Église de Jésus-Christ par la base. C'est-à-dire qu'ils vont agir non pas au niveau des ministères, mais au niveau du peuple de Dieu directement. Ils se déguisent, ils prennent des vêtements de brebis. Et ils répandent l'apostasie, la fausse doctrine, ils les répandent par toutes sortes de supports modernes. On a aujourd'hui les CD, mais on a les vidéos, on a les livres, on a tous les réseaux Internet sur lesquels se déversent toutes sortes d'excellentes choses et sur lesquels se déversent aussi un véritable poison spirituel. L'apôtre Paul, alors qu'il parlait aux anciens de l'église d'Éphèse, nous en avons touché deux mots il y a quelques minutes, disait encore ceci: « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Donc le danger ici vient de l'extérieur vers l'intérieur. Il s'introduira parmi vous. Et l'apôtre ajoute, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Il y a un double danger, le danger qui arrive de l'extérieur vers l'intérieur, il s'introduira parmi vous, et le danger qui émerge de l'intérieur même de l'Église, il s'élèvera du milieu de vous. Et il faut le dire, malheureusement, certains chrétiens affamés spirituellement, mais manquant de discernement parce que jeunes convertis, parce que ne s'étant pas suffisamment nourris de la parole de Dieu au fil des années, certains chrétiens sont donc affaiblis spirituellement, manquent de connaissances, manquent de discernement et deviennent la proie des fausses doctrines. Le livre des Proverbes nous dit que celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Et ayant faim, il y a des gens qui sont prêts à absorber n'importe quelle nourriture dite spirituelle, y compris celle qui renferme du poison et qui peut amener des dommages très graves dans leur vie chrétienne. Les victimes des bêtes des champs, ce sont aussi les chrétiens qui ont affaire aux gens du monde. Le Seigneur rappelait à ses apôtres, lorsqu'il les a envoyés, il leur a dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Les adversaires de l'Évangile, ce ne sont pas seulement les faux prophètes, les bêtes des champs que les brebis du Seigneur ont à affronter, ce sont aussi les gens du monde, qui sont désignés par le Seigneur Jésus comme étant des loups. Alors c'est vrai que, à cause de leur vie quotidienne, à cause de tout ce qu'ils rencontrent, il y a des chrétiens qui sont victimes du découragement devant les oppositions, qui sont fragilisés devant les tentations et qui sont prêts d'être vaincus. Il y a des chrétiens qui sont sur le point d'être entraînés par les sollicitations du monde et par ses influences néfastes. Et le rôle du berger, du vrai pasteur, c'est de protéger le troupeau, c'est de protéger les brebis contre toutes ces bêtes des champs, le diable, les faux prophètes, les adversaires de l'Évangile dans le monde, afin que les brebis soient gardées. Mais ce travail-là, les pasteurs d'Israël ne le faisaient plus. Et le Seigneur dit, « Voici, j'en veux aux pasteurs. » Le troisième point qui constituait l'état de souffrance du troupeau de Dieu, c'était l'errance. Au chapitre 34 d'Ézéchiel toujours et au verset 6, Dieu dit « Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. » Dieu regardait son troupeau et il voyait des brebis éparses. Et le mal était national parce que Dieu dit « Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. » Les brebis étaient dispersées, éparses, partout. Et il n'y avait pas de souci de récupération de la part des pasteurs. Il n'y avait pas de recherche, mais une espèce d'indifférence généralisée, de l'insouciance, ce que j'appellerais aujourd'hui un véritable naufrage du ministère pastoral. Le texte hébreu dit « personne cherchant et personne recherchant ». Les brebis étaient errantes sur toutes les montagnes, sur toutes les collines, et personne n'en avait le souci. J'ai entendu un jour un responsable d'église dire, vous savez, si vous êtes absent une semaine, deux semaines ou plus, on ne vous téléphonera pas, on ne prendra pas contact avec vous, on ne veut pas vous fliquer. Mais comment est-ce qu'on peut parler ainsi? Je pense que si un chrétien est absent une semaine, puis deux semaines, on fait ce que le berger fait dans l'évangile. Il laisse aux soins de quelqu'un les brebis qui sont là et il va à la recherche de celle qui ne voit plus et qui est perdue. Il ne s'agit pas de fliquer les brebis, mais de les compter, d'être attentif, de porter le regard sur tout le troupeau pour savoir si tout le monde est là et si une brebis n'est pas là, pourquoi elle ne l'est pas, est-ce que elle n'est pas victime d'une certaine errance, et le but alors est de la ramener. Le quatrième point qui faisait l'état de souffrance du troupeau de Dieu, c'était le pillage. Dieu dit « Mes brebis sont au pillage » au verset 8. « Mes brebis sont au pillage ». On constate aujourd'hui que dans certaines églises, alors que des chrétiens auraient dû s'enrichir spirituellement, se développer, on voit des chrétiens qui ont perdu leur joie, qui ont perdu leur zèle, qui ont perdu leur ardeur, qui ont perdu leur esprit de prière, qui ont perdu leur conviction. Il y a comme un pillage qui s'est opéré dans leur vie spirituelle. Alors oui, je sais que on peut me parler aujourd'hui d'un nouvel évangile plus moderne. Quelqu'un me disait un jour, mais vous savez, monsieur Ballière, on ne peut plus conduire les églises aujourd'hui comme on les conduisait autrefois. Moi, je vois que c'est le même Dieu, que c'est le même Jésus, que c'est le même Saint-Esprit, que c'est la même Bible, que c'est le même diable, que ce sont les mêmes démons, que ce sont les mêmes péchés, que ce sont les mêmes maladies, et que par conséquent, il faut les mêmes remèdes. Alors, on me dit, mais oui, mais regardez comme ça marche à tel endroit, les églises sont pleines, les chrétiens sont effervescents. Oui, les salles sont pleines, et les chrétiens sont animés d'une certaine joie. Mais Jésus, quand il s'est adressé à Nicodème, n'a jamais dit que la chair serait stérile. Il a même dit que la chair enfanterait. Il a dit « ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. L'esprit enfante, la chair enfante, et chacun des deux enfante selon les lois de l'espèce. Chacun enfante selon son espèce. » Et l'avenir nous dira qui a raison. Je pense que le temps vient où nous allons découvrir les brebis qui ont de véritables racines dans le Christ Jésus, qui sont réellement fondées en lui, enracinées en lui, qui sont solides. Maintenant, je voudrais encourager les chrétiens en souffrance, parce que la fin de notre texte est pleine d'un message encourageant, vivifiant de la part du Seigneur, qui fait des promesses magnifiques. Dieu dit au verset 10, et c'est le verset qui termine la portion de texte qui nous a préoccupés aujourd'hui, Dieu dit, après avoir souligné « j'en veux au pasteur », Dieu dit « je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, ils ne se paîtront plus eux-mêmes, je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. L'heure vient où Dieu va enlever ses brebis en souffrance d'entre les mains des mauvais pasteurs. Dieu dit, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Le texte hébreu dit littéralement, je chercherai mon petit bétail hors de leurs mains. Les mains nous parlent de saisir, de tenir. Quand on dit de quelqu'un, il est entre de bonnes mains, on sait ce que ça veut dire. Et Dieu dit, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Il va retirer les brebis en souffrance qu'il connaît, qu'il aime, dont il a le souci, il va les retirer des mains des mauvais pasteurs pour les prendre, lui, dans ses mains bénies. Des âmes souffrent, des âmes sont blessées, vous en faites peut-être partie, des âmes ne savent plus où aller, le Seigneur va les enlever des églises apostates et il va prendre soin d'un reste, il va les retirer d'ici et là, il va les rassembler, il va les nourrir, il va les désaltérer, il va les purifier, il va les embraser. Dieu va préparer son Église pour l'avènement de son Fils bien-aimé. Mais Dieu ne dit pas seulement qu'il va enlever son petit bétail hors des mains des mauvais pasteurs, il dit aussi qu'il va les délivrer de leur bouche. Dieu dit au verset 10, « Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. » Avec les mains, on saisit, on tient, avec la bouche, on parle, on enseigne. Et pour revenir aux paroles du Seigneur Jésus dans l'évangile de Jean, lorsqu'il fait allusion au bon berger, le Seigneur Jésus dit dans Jean 10, verset 3, « Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix, la voix du berger. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Dieu va ôter son petit bétail de la bouche des mauvais pasteurs. Il va les retirer d'un mauvais enseignement et Dieu va s'occuper de prendre soin de ses brebis en souffrance, de les nourrir. Il va les soustraire à un enseignement pollué, mondain, apostat, pour les ramener dans les sentiers de sa parole. Nous allons assister, mes frères et sœurs, à un temps où Dieu va intervenir dans les églises pour sortir son petit bétail et en prendre soin. Laissez-moi vous placer sur le cœur, en guise de conclusion, deux paroles prophétiques. La première se trouve dans Jérémie au chapitre 3, verset 15. « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Et dans Ésaïe, chapitre 40, verset 11, « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et il les portera dans son sein, pardon, il conduira les brebis qui allaitent. Vous qui avez souffert, prenez courage, le Seigneur va prendre soin de vous, qu'il vous bénisse richement. Amen. »